À tous. Me revient la charge de parler du nouveau-né et dans le cadre des alloimmunisations maternelles anti-RH4. Marche pas trop. L'immunisation anti-RH4 maternelle ne va intéresser finalement le pédiatre que si il y a une incompatibilité fœto-maternelle érythrocytaire qui correspond à la fixation d'allo-anticorps maternel anti-RH4 sur les antigènes RH4 d'origine paternelle présents sur le globule rouge fœto. Et qui sont responsables d'un conflit donc antigène-anticorps avec pour conséquence une hémolyse qui commence avant la naissance et qui se poursuit après la naissance. En l'absence d'incompatibilité, même si la mère a une immunisation anti-RH4, il est évident que le pédiatre n'aura pas à intervenir, mais actuellement, et depuis récemment, on a accès au génotypage non invasif fœtal, mais il y a encore beaucoup de grossesses pour lesquelles on n'a pas cette situation d'incompatibilité fœto-maternelle validée et qu'il faudra la valider, hein, c'est la première chose, dans la période néonatale précoce. Hémolyse anté- et postnatale qui est à l'origine d'une augmentation de la production de bilirubine qui est le principal catabolite de l'EM et aussi d'une anémie évolutive. Alors, Cécile a bien expliqué que la maladie hémolytique fœtale et néonatale, donc qui est l'expression de l'IFME, elle va avoir une intensité variable en raison de nombreux facteurs, que ce soit la quantité d'anticorps maternels, mais plutôt même la quantité d'anticorps qui a passé la barrière placentaire, mais aussi d'autres caractéristiques immunologiques maternelles et fœtales que on n'aborde pas actuellement dans des techniques de dépistage. Alors, l'incompatibilité va avoir et va être validée par la biologie et qui doit associer un test de Coombs direct positif, une élution positive à l'anticorps maternel, là l'anti-RH4, et le phénotype du nouveau-né incompatible. C'est le seul moyen de valider la situation d'incompatibilité et de pouvoir du coup surveiller cet enfant, car l'expression clinique de la maladie hémolytique, elle est très variable, pouvant aller de l'ictère, anémie, hépatosplénomégalie, voire à un tableau d'anasarque d'intensité, donc des signes d'intensité variable, à des formes purement anémiques, avec une anémie régénérative avec plus de 10% de réticulocytes, voire une anémie non régénérative s'il y a eu des transfusions fœtales. Et dans certains cas, on n'a pas de signes cliniques. Il est important de se souvenir que l'expression clinique n'est pas corrélée à la situation biologique d'incompatibilité, mais que cette expression clinique, si elle existe, elle sera précoce. Souvenez-vous, il s'agit d'un continuum d'hémolyse qui a commencé pendant la vie fœtale et qui ne s'arrête pas à la naissance. Hein, les anticorps, ils sont passés et ils restent dans le bébé. Et d'autre part, c'est une clinique qui va être évolutive avec une vitesse qui est très rapide dans les 3 premiers jours et un peu moins rapide dans les 10 jours qui suivent et qui se poursuit parce que l'hémolyse est chronique, mais à une vitesse plus lente jusqu'à 3 mois. Alors, première circonstance, je dirais celle où c'est très confortable, la femme a une ERAI positive à anti-RH4 qui a été dépistée en cours de grossesse, elle a été suivie régulièrement, on a eu des dosages pondéraux réguliers et on a vu une croissance de ces dosages pondéraux. À l'époque, hein, ce cas-là, il n'y avait pas génotypage accessible et on sait du fait de cette croissance des dosages pondéraux qu'on est dans une situation d'incompatibilité. incompatibilité. Et les biologistes, nous ayant donné la valeur seuil de 1000 unités CHP pour une maladie néonatale sévère, on s'y attend. L'enfant est donc pris en charge. Alors là, vous voyez qu'il naît avec une sans anémie, une hémoglobine à 14,3 g. Une bilirubine qui est déjà un petit peu élevée à 70. Alors les bilirubines, elles sont en bleu sur le graphique, mais qui est là, en dessous du seuil de photothérapie, qui est en rouge en ligne complète. Le seuil est très loin du seuil d'exsanguinotransfusion en pointillé. Un premier contrôle est fait DH1, et là on voit que d'emblée déjà, on voit la progression rapide de la bilirubinémie qui fait que cet enfant est là à mettre sous photothérapie intensive qui est ici débutée et qui permet de contrôler cette croissance de la bilirubinémie et fait repasser le taux de bilirubine DH24 en dessous du seuil d'indication de photothérapie. La photothérapie est passée en discontinu, c'est-à-dire 6 heures sur 12. Et là, il y a un petit trou de suivi, parce qu'on est assez confiant, on voit que ça a bien marché. Et on retrouve l'enfant à H60, prochain contrôle, sous photothérapie discontinue, où on voit qu'il est repassé au-dessus du seuil. Donc, c'est ce qu'on appelle un rebond d'Ikter. L'Ikter réagit bien et l'hyperbilirubinémie chute pour remonter, vous voyez, encore à J6 avec reprise de photothérapie. Donc ça, c'est classiquement le profil d'un ictère hémolytique, et ce qui est tout à fait corrélé avec une hémoglobine qui a chuté de 4 grammes en moins d'une semaine. Donc, quand on est dans cette situation, il faut dépister très précocement et donc se servir du cordon et du sang du cordon pour faire un bilan permettant de statuer sur l'hémoglobine, la bilirubine, éventuellement le Coombs direct, et faire un examen clinique. Et le premier signe d'ictère, c'est la gelée du cordon, même quand l'enfant n'est pas très ictérique. Sur la gelée du cordon, si elle est jaune, on a un taux qui est à peu près à 70 micromoles par litre au moins. Il faut traiter en suivant précisément en adaptant en fonction de la surveillance et en mettant soit en place une photothérapie intensive précoce, continue, et ça c'est ce qu'on doit toujours mettre, et discuter à chaque point de contrôle de une éventuelle exsanguinotransfusion ou de thérapeutique adjuvante. Et il faut pendant ce temps-là aussi identifier et confirmer biologiquement l'incompatibilité, ce qui permettra de guider la surveillance ultérieure. Et cette surveillance, elle est d'emblée une surveillance de l'efficacité thérapeutique. Vous voyez que là, on pouvait être très confiant, mais qu'il a suffi de juste baisser un petit peu la garde pour que l'ictère échappe au traitement. Et donc, ce sera des dosages sanguins de bilirubine toutes les 6, voire toutes les 12 heures pendant les 72 premières heures, là où il y a la vitesse d'évolution de la maladie qui est la plus importante. Et d'autre part, des contrôles de bilirubine à chaque modification thérapeutique, en particulier dans les premières semaines de vie. Et il faut se méfier des rebonds. Là, j'ai mis jusqu'à J7, J10, mais on peut même avoir jusqu'à J15. Voilà. Deuxième circonstance, la naissance chez une femme avec RAI positif qui sont découvertes au 8e mois et qui sont identifiées anti-RH4. Alors là aussi, c'est une situation finalement assez confortable parce qu'on sait que c'est un anti-RH4. Parce que le laboratoire a contacté les cliniciens et que toutes les analyses ont pu être faites rapidement et on a même un dosage pondéral qui, là encore, nous alerte sur un risque de maladie néonatale, postnatale sévère. Cet enfant est né à 37 semaines, une naissance anticipée, et un Coombs direct positif, et son tableau clinique est plus sévère que le précédent, puisque vous voyez qu'il a une bilirubine qui d'emblée est au-dessus de 100 micromoles, Il est mis sous photothérapie, lui, dès la naissance. Mais malgré la photothérapie, surveillance de l'efficacité, on voit qu'on est en train de se rapprocher dangereusement du seuil d'exsanguinotransfusion. Et pendant que l'exsanguinotransfusion est organisée, compte tenu des délais inhérents pour cet enfant, il est proposé de mettre en place des immunoglobulines intraveineuses, qui est une thérapeutique qui est là, du coup, étiologique, qui va avoir pour but de bloquer l'hémolyse immunologique quand le sujet est répondeur, ce qu'on ne sait pas a priori. Et on voit que chez cet enfant, en tout cas, ça a marché et ça a permis d'annuler l'indication d'exsanguinotransfusion. Alors, même si les études sont parfois un peu contradictoires, il faut savoir avoir recours à ces IGIV dans les formes sévères, en sachant que ça n'empêche qu'il faut préparer l'exsanguinotransfusion pendant ce temps-là, parce qu'on n'est pas sûr a priori que l'enfant va être répondeur, mais s'il est répondeur, il y a une réduction significative du recours à l'exsanguinotransfusion et à la durée de photothérapie dans de nombreuses études. Je suis assez réservée sur l'usage, parce qu'on pourrait se dire aussi, on va mettre des immunoglobulines intraveineuses dès qu'on on a une forme sévère. On est hors AMM, c'est un traitement coûteux, c'est un traitement dont dépendent les déficits immunitaires les déficits immunitaires et qui est très souvent en rupture d'approvisionnement. Donc ça doit être réservé aux formes sévères si le recours à l'exsanguino est envisagé et pas mis dans tous les cas. Dernière circonstance, les anomalies du rythme cardiaque fœtal ou une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Alors, l'histoire, c'est celle de Suzanne qui naît à 39 semaines par césarienne en urgence sur anomalie du rythme cardiaque fœtal. La maman sentait moins son bébé bouger. Elle est pâle, discrètement ictérique, elle a un petit souffle cardiaque, une hépatomégalie, mais elle a une petite détresse elle est oxygénodépendante, mais finalement, s'adapte assez bien. Le pédiatre appelé évoque d'abord une cardiopathie, mais on fait un HemoQ, appareil doit souvent être réquisitionné par le pédiatre dans ces cas-là, je pense, qui est très utile. Et on a une hémoglobine à 5,4 g qui sera contrôlée en périphérie, avec un reflet ictérique qui apparaît assez rapidement, et on évoque une maladie hémolytique. La bilirubine, finalement, au cordon, était à 75 micromoles par litre. Compte tenu de la profondeur de l'anémie, elle est transfusée en urgence avec le CGR du dépôt qui est haut résus D négatif. Et pendant ce temps-là, on commence à chercher un peu tout ce qu'il y a dans le dossier, ce qu'il n'y a pas surtout, parce qu'il n'y a pas d'identification d'une RAI positive depuis le début de la grossesse. Et on retrouve la notion d'une RAI positive déjà un an auparavant, dans les suites d'une fausse couche. Et la maman se souvient que c'était un anti-RH4. On est contacté par le pédiatre et on fait arrêter la transfusion tout de suite. Mais quand l'enfant nous est transféré à H4 de vie, la bilirubinémie a été multipliée par 4 et l'anémie pas franchement corrigée. On démarre une exsanguinotransfusion pour épuration d'une hémolyse aggravée par une transfusion incompatible. Bon, on a eu de la chance, ce bébé a survécu, mais on est au moins une fois par an au courant d'un dossier identique avec un décès de l'enfant, sur une transfusion incompatible. Donc c'était une incompatibilité sur immunisation maternelle à anti-RH4, hein, et le dosage pondéral qui a été réalisé, il était à 6000 unités CHP avec un titre au quart. Vous voyez aussi que là il y a une grosse différence entre le titre et le dosage pondéral. Alors tout ça pour parler rapidement et dégager des points importants de la transfusion des anémies par incompatibilité appelés fœto-maternels érythrocytaires. Il est absolument important d'avoir le lien mère-enfant et les données immunohématologiques complètes de la mère qui datent de moins de 72 heures par rapport à l'accouchement, au mieux, et des données IH de l'enfant. Quand on doit faire une transfusion en urgence, il faut savoir que ne pas avoir l'identité de la mère, en particulier chez les enfants transférés, la personne responsable de la transfusion et du choix dans des affres importants et avec des prises de risque beaucoup plus importantes que si on a, et j'insiste hein, sur le lien mère-enfant, aujourd'hui les trois quarts des enfants n'ont pas le même nom que celui de leur mère. Hein, donc voilà. Et en particulier dans les transferts, je pense qu'il faut, enfin je le dis à chaque fois, mais il faut transférer un tube de la maman ou en tout cas les dernières RAI maternelles avec l'enfant. D'autre part, il faut, parce que dans une transfusion de nouveau-né, il va falloir respecter le groupe de l'enfant et les RAI maternelles, donc pas toujours du O négatif et surtout pas chez les femmes rhésus D positif, hein, qui auraient une RAI positive. Même si elles n'ont pas une RAI positive, une femme rhésus D positif, il y a de fortes chances qu'elle soit grand C. J'avance. Donc, pour résumer, on a trois circonstances de prise en charge. Pour la première, qui est finalement la plus confortable, se souvenir que quand il y a des antécédents de transfusion fœtale, on va fausser le bilan immunohématologique à la naissance, surtout si les transfusions fœtales ont été faites dans un autre centre. Il faut bien prévenir le centre où va naître l'enfant, l'établissement français du sang, les pédiatres, les obstétriciens, les anesthésistes, et ce d'autant que la clinique est souvent très pauvre et très rassurante. Et le COOMS, il se négative après la deuxième transfusion fœtale. Après trois transfusions fœtales, on n'a pas de double population, on a une population qui est celle des poches transfusées. Hein. La naissance chez une femme avec des RAI positifs découverte au 8e mois et l'entrée en salle d'accouchement, je pense que là il faut insister sur l'urgence de l'identification, de la quantification et de l'importance de l'information et de la transmission des informations entre les biologistes qui découvrent cet élément-là et l'ensemble des praticiens qui vont prendre en charge la mère et l'enfant. Parce que j'ai un peu la même histoire que Suzanne, avec en plus une hémorragie de la délivrance chez la mère. Hein. Je précise que, voilà, avec... l'autre chose, c'est les anomalies du rythme cardiaque fœtal, et en particulier le rythme sinusoïdal. Le pédiatre, il doit savoir que c'est quasi pathognomonique d'une anémie fœtale profonde, et qu'il est important d'avoir prévenu son EFS, réservé éventuellement un CGR. Alors, c'est pas toujours facile quand on descend en salle, hein, d'aller regarder quel est le dernier bilan immunohématologique de la maman. De se tenir prêt à dépister une maladie hémolytique. Donc voilà, dernier volet, l'anémie postnatale. Chez l'enfant non transfusé in utero, cet exemple avec une dame qui a un anti-RH4, titre en haut quart, et avec 815 unités CHP, un bébé qui naît à 37 semaines, comme la plupart des bébés, quand on fait un suivi régulier de la grossesse, qui ne fait pas d'ictère, hein, vous voyez, les points bleus, ils sont tous en dessous de la courbe d'indication de photothérapie, mais qui, à la naissance, a son bilan biologique qui affirme qu'il est en incompatibilité, test de Coombs 3 croix avec un anti-RH4 retrouvé à l'élution et un phénotype grand C petit C, et surtout 13 grammes d'hémoglobine, ce qui est une anémie. Vous voyez qu'il a beaucoup de réticulocytes, donc anémie régénérative, sauf que cette réticulocytose, elle commence à baisser à 10 jours, et qu'à 5 jours, et qu'à 12 jours, physiologiquement, comme chez tous les enfants, la réticulocytose, elle a disparu. Et par contre, vous voyez qu'il a hémolysé très rapidement, puisqu'il se retrouve à 7,3 g. Il est transfusé une première fois, il sera transfusé à 30 jours. Dans les suites, la réticulocytose ne redémarre pas, elle démarrera d'un coup entre J85 et J90 en flèche, hein, avec 130 000 réticulocytes, et cet enfant n'aura pas besoin d'autres transfusions. Donc, savoir que l'anémie, ça peut être le seul signe, que si on n'a pas fait de bilan biologique et qu'on n'a pas confirmé l'incompatibilité, on ne va pas obligatoirement suivre cet enfant de façon qui n'a pas eu d'ictère de façon attentive, que cette anémie elle est évolutive et qu'il faudra la surveiller jusque 3 mois ou à reprise d'une hématopoïèse autonome. Chez l'enfant transfusé in utero, et ça c'est parce que c'est bataille. Cet enfant, il naît, il a un test de Coombs négatif. Il a eu 3 transfusions in utero la dernière 3 semaines avant l'accouchement et avant la naissance. Il ne fait pas d'ictère. Il a une anémie très modérée qui tolère très bien à 13 grammes. Mais vous voyez qu'il n'a pas de réticulocyte et que cette absence de réticulocytose, elle va l'accompagner jusqu'à 3 mois révolus. Et il faut prendre patience, hein, c'est décrit, hein, il y a un risque de sidération médulaire avec une anémie arégénérative et une neutropénie prolongée. Ça a été publié par Enrico et son équipe. Et cet enfant, il va être transfusé 2 fois en plus en postnatal. Voilà. Pour l'anémie et la prise en charge de l'anémie, juste quelques éléments. La transfusion, évidemment, mais une transfusion qui doit ne pas être décidée sur un chiffre d'hémoglobine, mais un chiffre plus la clinique, plus les réticulocytes, plus la cinétique et l'âge postnatal et l'âge par rapport à la dernière transfusion, avec une cible post-transfusionnelle autre de mes dadas, 14 grammes parce qu'on sait que l'hémolyse continue et que si on ne le remonte pas assez haut, on va multiplier les transfusions et un volume calculé, parce que si vous utilisez la règle uniquement française du 10 à 15 millilitres kilo en CGR-SAG, mannitol, vous allez remonter votre enfant de 8 grammes à un bon 11 grammes au mieux, et du coup, vous allez le retransfuser après. Donc, c'est vrai que c'est souvent des transfusions de 30 millilitres kilo, ce qui est hors des recommandations, mais qu'on passe en 6 heures, et globalement, on n'a jamais eu de problème. Hein, ces enfants qui tolèrent très bien, il faut... Voilà. Nous, depuis qu'on a fait ça, bon, j'ai pas mis les chiffres, on transfuse beaucoup moins les enfants en postnatal qu'avant. Le fer, pas utile. Vous avez vu la ferritinémie pour le premier enfant, vous avez peut-être eu le temps de la voir, mais la ferritine, elle est toujours très élevée, hein, chez ces enfants-là, parce que vous avez une hémolyse chronique, donc jamais de fer. Le PO, je l'ai mise parce que c'est proposé, mais je pense qu'Enrico va en parler parce que ça va être l'occasion d'une étude randomisée, parce que les études actuellement disponibles sont extrêmement disparates, à petit effectif. Et par contre, ce qu'utilise assez récemment de nombreuses équipes, c'est le clampage tardif du cordon pour permettre que l'enfant bénéficie du sang placentaire et donc parte d'un niveau d'hémoglobine moins bas à la naissance, et ça a été montré comme diminuant le nombre de transfusions postnatales. Donc, à retenir, une grande variabilité des manifestations cliniques et un diagnostic d'incompatibilité qui ne sera affirmé seulement par la biologie. La maladie hémolytique RH4 doit motiver une surveillance postnatale d'environ 6 semaines en moyenne. Quelle que soit la clinique initiale. À partir du moment où on a on est certain de l'incompatibilité, le CGR de groupe O rhésus D négatif n'est pas un bon produit et ne doit jamais être utilisé et n'est pas le produit universel, contrairement à ce que tout le monde sait, ou tout le monde entend et dit. Et il n'y a que par une coordination, une communication entre les différents praticiens, obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, biologistes spécialisés et médecine transfusionnelle, qu'on pourra relativiser l'imprévisibilité du tableau postnatal et qu'on pourra aussi anticiper l'escalade thérapeutique qui sera peut-être nécessaire et qui pourra faire qu'il vaut mieux transférer cet enfant avant la naissance qu'en urgence après la naissance parce qu'on n'a pas calculé les risques qui peuvent arriver.